Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à Schiste 94.3 et à un nouvel épisode d'A priori, le balado des étudiants et étudiantes en affaires publiques et relations internationales. Lors du dernier épisode, j'ai été accompagnée de Renaud et Dylan qui nous ont parlé de la NFL, mais plus d'un point de vue économique. Aujourd'hui, on change complètement de sujet. On s'en va vers un sujet plus politique, là, si je peux dire. Je suis présentement accompagnée de Nema et de Paul qui vont nous parler d'inclusion et de représentation aujourd'hui. Donc, comment ça va, vous deux?
Ça va super bien, toi?
Moi, ça va bien. Merci, toi, Paul.
Moi, ça va très bien. En plus, je suis là pour une deuxième fois.
Oui, c'est ça que j'allais dire. Re-bienvenue sur le podcast. Ça, c'est ton deuxième épisode.
Ça fait plaisir.
Tu as été présent dans la dernière saison. Et bienvenue à toi, Nema, pour ton premier épisode. Donc, aujourd'hui, vous allez nous parler d'inclusion et de représentation. Puis, quand on a brainstormé cet épisode-là, Nema m'avait approché puis elle m'a dit qu'elle voulait parler plus de comme son point de vue à elle puis son expérience. Sinon, Paul, toi, qu'est-ce qui t'a amené aujourd'hui à parler de ça aujourd'hui?
Tu sais, je pense que c'était quand même des raisons quand même assez semblables. Je sais que moi et puis Nema, on avait parlé de ça aussi au niveau du début de l'année. On avait dit que ce serait intéressant d'avoir un épisode là-dessus, faire un épisode de podcast là-dessus, parce que notamment on avait discuté, puis on avait comme des points de vue quand même assez semblables là-dessus, là, même, puis on avait aussi d'autres expériences dont on voulait parler, puis on disait que ça pouvait être intéressant aussi, sachant qu'on est deux noirs parmi, genre, ou bien pris, genre. Fait que ce serait intéressant aussi de peut-être aussi parler de nos expériences, puis justement, on va parler plus durant le podcast, mais c'est en parlant de nos expériences justement que des fois peut-être des situations qu'on aime ou qu'on aime un peu moins ben, peuvent changer. Puis je pense que c'est aussi peut-être aussi intéressant d'avoir cette discussion-là à ce niveau-là. Donc je sais pas si Nema
est d'accord.
Oui, ben exact. C'est sûr qu'on est super content d'être ici. Puis je pense que c'est important de mentionner qu'on donne vraiment juste nos propres opinions personnelles, puis que c'est pas les opinions de tous les Noirs étudiants à l'Université Laval ou peu importe. Là, on est vraiment, on parle en notre nom. Puis c'est sûr que, comme on disait, le fait d'être des personnes noires, mettons, autant à l'université que dans des lieux aussi politisés, ça fait en sorte qu'on a quand même des expériences qui, des fois, sont différentes des autres. Puis on a eu la chance d'en parler, puis on s'est dit qu'un podcast, ça pourrait être le fun.
Ben, merci beaucoup d'être là. J'apprécie beaucoup. Paul, pour ceux qui le savent déjà, mais peut-être ceux qui le savent pas, Paul, en ce moment, il travaille sur un gros projet en tant qu'exécutant de la EAPRI, mais aussi en tant que Paul lui-même, sur le mois de l'histoire des Noirs.
Yes.
Veux-tu développer un peu sur ton projet?
Yes, ben écoute, hey, merci beaucoup, là, Caroline, de rebondir là-dessus, parce que c'est un projet qui me tient vraiment à cœur. Je pense que ceux dans l'exec ne vont pas vous le confirmer, mais ça faisait depuis le début même de l'année, même à quelques semaines après mon entrée en poste, en avril 2023, j'avais parlé que je voulais faire une activité là, pour moi, le mois de février 2024. Justement, le fait que quelques petites activités, moi et aussi le comité Action sociale de la EAPRI, donc shout-out à Jeanne Duchesne, Sandrine Rancourt et Laurence Murray, qui m'ont supporté dans l'élaboration de ce projet-là. Puis justement, en fait, pour moi, puis un peu plus pour le comité Action sociale de la EAPRI, pour les gens aussi de l'exec, on l'a appris en général. C'est un mois qui est là pour plus sensibiliser les gens à cette cause-là, puis donner en fait de l'information sur différentes, en fait, différentes sphères liées en fait à la communauté noire. Notamment là, j'ai fait une interview avec deux de mes amis, Chris Arnaud Droguet et Manu Reda, justement qui eux sont qui œuvre au sein d'un organisme qui s'appelle La Pira, qui va auprès des jeunes, qui est disponible sur la page Instagram du comité Action sociale de l'EAPRI. Du comité Action sociale de l'EAPRI, fait qu'allez checker ça. Puis on a aussi droppé quelques petites suggestions culturelles, que ce soit musicales ou alors des livres. Donc allez aussi voir, c'est quand même assez intéressant. Et on a aussi une surprise là, qui arrive au courant du mois, vers la fin du mois, donc restez alerte.
Toi, Nema, y a-tu des... Le mois de l'histoire des Noirs, je pense que c'est quand même important pour tout le monde, là, même noir, pas noir. Y a-t-il déjà des implications que tu as faites par rapport à ça ou plus juste du renseignement, mettons, que tu as fait?
Oui, ben je pense que moi, personnellement, j'ai appris que ça existait, entre guillemets, seulement au secondaire, quand j'ai fait une présentation orale.
Okay.
Donc, pendant toute mon enfance, ou jusqu'en secondaire 3, quasiment, je savais même pas que ça existait. Puis, c'est vraiment par mes propres recherches que j'ai été sensibilisée à ça. Puis, par la suite, je pense que j'en ai vu un peu plus rendu au cégep aussi, que je voyais, Cégep de Sainte-Foy avait quand même fait beaucoup de présentations, beaucoup de sensibilisation par rapport à ça. Puis, c'était le fun de voir... en fait, cet engagement-là là, par rapport au cégep. Là. Donc, c'est plus dans ce sens-là, j'ai surtout regardé par moi-même.
Oui, bien, moi, je pense, là, moi aussi, c'est plus le cégep. Moi, j'en avais pas vraiment entendu parler au secondaire, mais au cégep, j'avais une enseignante que la session d'hiver l'avait dédiée pas mal une bonne partie, justement, sur l'histoire des Noirs, malgré le fait que le mois de février était passé. On avait des conférences obligatoires avec Webster, puis on avait même dû analyser une pièce de théâtre, puis j'avais trouvé ça super intéressant. Mais encore aujourd'hui, personnellement, je trouve que t'sais, le monde le savent, mais ils le savent pas nécessairement. C'est encore un peu pas secret, là, mais méconnu, là, si je peux dire.
Exact.
Certains points. Paul, y avait-tu autre chose que tu voulais mentionner en lien avec le mois de l'histoire des Noirs?
Ouais, ben écoute, je pense aussi là, que, tu sais, comme t'as dit, Caroline et au cinéma, c'est pas quelque chose nécessairement qui est hyper publicisé, que tout le monde sait. Là. Puis je pense que c'est justement, tu sais, même nous en tant que Noirs, tu sais, moi j'en ai entendu parler au secondaire, là, parce que notamment, j'étais au privé à Sojourn. Puis dans le fond, nous, c'était en secondaire 3, notre prof d'anglais, dans le fond, là, nous avait justement fait une activité en lien, durant le mois de février, il nous a parlé, bon, des classiques, là, genre l'esclavage, je connais pas le nom français, mais je sais qu'en anglais, c'est le Underground Railroad. Dans le fond, c'était le chemin clandestin que les esclaves américains là, utilisaient pour se rendre au Canada, qui avait aboli l'esclavage. Puis on avait, notamment, notre examen final était justement sur, il fallait, je pense, donner notre avis sur genre une histoire genre liée au mois de février, tu sais. Puis moi, je trouvais ça nice parce que j'étais noir, là. Puis, genre, le seul nom de ma classe, là, fait que je suis genre, hey, let's go, man. Fait que je pense qu'il faut toujours aussi pousser là-dessus pour la reconnaissance, puis il faut aussi savoir que l'existence même du mois, il fait pas consensus chez tout le monde, notamment chez les Noirs. Il y en a qui disent que ah, ça devrait pas exister, il y en a qui disent que ça devrait exister. Donc je pense aussi que ça prouve aussi que il y a une pluralité d'opinions, que ce soit de la communauté noire ou la communauté non noire. Puis je pense aussi qu'il y a plusieurs personnes qui ont une définition personnelle là, de ce mois-là là. Donc mm-hmm. C'est tout ce que j'avais à dire là-dessus.
Je vais peut-être juste ajouter que je trouve ça important aussi que ce soit des personnes, pas juste des personnes noires, qui vont s'impliquer puis qui vont mettre de l'avant le mois de l'histoire des Noirs, parce que je pense qu'à un certain point, c'est pas un poids, mais je pense qu'il n'y a pas juste les personnes noires qui devraient avoir ce genre de poids-là, de mettre de l'avant puis faire des activités puis de s'engager dans ce type d'action-là. Puis, tu sais, en tant que tel, comme il vient de dire, c'est pas tout le monde qui est d'accord, mais si pour toi, une personne blanche ou noire ou non noire, en fait, tu décides que tu trouves que c'est important, bien, c'est important aussi de faire des actions pour rajouter un peu de visibilité là, sur ce mois.
Ben, je suis d'accord avec ce que tu dis. T'sais, justement, on parle de comme intégration puis de multiculturalisme, souvent dans des mois de prévention de même. Puis c'est sûr que si c'est juste une gang qui le fait, puis l'autre gang qui font leurs affaires de leur bord, je vois pas comment l'intégration pourrait bien se faire. Justement, abordant le sujet d'intégration, je sais que toi, Paul, tu voulais un peu aborder le sujet de l'intégration des Noirs dans le milieu en général, ben dans leur milieu en général.
Ben justement, là, c'est dans le plan qu'on avait fait. C'est ça, je voulais un peu parler un peu de l'impact du moment Black Lives Matter et justement tout ce qui en a découlé. Donc, on peut directement commencer là-dedans. Là. On sait qu'en 2020, il s'est passé un événement quand même assez malheureux, là, notamment la mort de George Floyd en 2020. Et il y a eu une très forte réaction, justement, de la part, en tout cas, selon moi, de mon avis, après on peut en discuter, j'ai l'impression que c'était la première fois où justement la mort, mais dans l'ère de l'Internet dans le fond, que c'était la première fois qu'il y avait une réaction si forte de la communauté, que ce soit, admettons, genre nord-américaine ou juste internationale en général, par rapport à un enjeu comme ça, sachant que c'était pas la première fois qu'il y avait la brutalité policière envers un noir. Puis justement, je pense aussi que le fait qu'on était en pandémie, qu'il y avait des confinements, puis qu'il y a ça qui arrive, je veux dire, il y avait rien d'autre qui se passait outre les morts du COVID. Donc, les gens sont directement penchés là-dessus. Puis aussi, ben, pour ceux qui ont vu la vidéo, je veux dire, c'était une vidéo quand même qui est quand même assez traumatisante, là, dépendamment de la tolérance de chacun, mais je veux dire, il n'y avait aucune vraiment. Il n'y avait pas vraiment de place à l'interprétation par rapport à la mort de l'individu. Donc, justement, il y a eu beaucoup de. Bon, on l'a vu, des manifestations. Il y a eu une manifestation à Québec là, qui était pacifique. Il y en a eu à Montréal, il y en a eu à Paris, puis même au Moyen-Orient. Là, on a vu des fois là, des gens qui se soulevaient par rapport à ça. Puis moi, c'était un peu. Je voulais un peu plus parler de la réponse des différents organismes et organisations à ce niveau-là, parce qu'on a vu une espèce de mise en branle dans le fond de beaucoup d'organisations qui ont comme réalisé que justement c'est important d'intégrer les Noirs dans ces organisations-là, mais dépendamment des organisations, il y avait comme un peu de... C'était comme un peu bizarre dans le sens où... en fait... Excusez-moi, je cherche mes mots, là. Mais, parce qu'en mettant des fois, il y avait... Il y en a qui pensaient que justement, OK, donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut empêcher les Blancs d'entrer dans des organisations, puis, tu sais, juste en mettant accepter un Noir dans une organisation parce qu'il est Noir. Puis je pense que même si l'intention peut être bonne au début, ben, tu sais, c'est genre... Admettons, tu sais, moi, je suis noir, puis genre, j'ai fait un bac en administration, j'ai fait une maîtrise, puis genre, j'ai eu 3 bourses, puis tu vas tout mettre ça de côté, puis juste me prendre par ma couleur, puis je pense que c'est ça le problème. Puis aussi, j'en ai discuté avec Nema, mais notamment, admettons, par rapport à ce qui est au corps policier, on disait souvent, il y a beaucoup de gens qui disent que la raison pour laquelle il y a autant de brutalité, c'est parce qu'il n'y a pas assez de patrouilleurs qui sont, admettons, noirs. Mais tu sais, j'en ai discuté avec Nema, puis tu vas pouvoir justement dire ta propre opinion, là, excuse-moi, là, je mets ton nom là-dessus. Mais pour moi, dans le sens où la police, tu sais, c'est des fonctionnaires publics. Donc, c'est les représentants de la force coercitive de l'État, dans le sens où ceux qui ont le monopole de la violence. C'est-à-dire que demain, un ambulancier commence à battre un patient parce que le patient est violent, je veux dire, ça peut être légitime. Alors que si un policier arrive puis arrête de façon un peu musclée, entre guillemets, un patient, ça va être légitime, parce que c'est un policier. Et, ben, je veux dire, admettons, même si t'es noir et tu deviens un policier, tu rentres quand même dans le système qui crée dans la structure. Et, c'est-à-dire que si, dans la hiérarchie, par exemple, des directeurs de police, les enquêteurs, les gens qui ont le pouvoir de changer les choses, s'il n'y a pas de changement à ce niveau-là, ça va rien changer. Et, il y avait un exemple, là, dans le fond, Il y a un an ou deux ans, dans le fond, on avait vu là, un noir qui s'est fait. Qui était victime de brutalité policière. Et les quatre policiers qui ont commis cet acte de brutalité policière, c'était quatre policiers noirs. Donc, tu sais, puis là, on se dit, oh, ben voyons donc, est-ce que, je sais pas, il y avait de la haine, intra-raciale. Puis moi, tu sais, moi, ça m'avait choqué, oui, mais je veux dire, parce que quand tu vois ça, c'est toujours choquant, mais. Moi, je trouve que ça prouvait juste, encore une fois, que le problème, c'est la structure et non les individus qui sont...
Mais je me mets dans l'exemple de... Imagine quatre policiers blancs qui battent un policier... Ben, pas un policier, mais un individu blanc, ça va passer dans le bar, là. Tu sais, par rapport à ton exemple. Je pense que Nema, tu voulais rebondir là-dessus.
Oui, ben c'était surtout sur tout ce que Paul disait. On s'entend, je pense que c'est ça. C'est un peu l'idée de... c'est pas parce qu'on fait juste ajouter des personnes noires dans des milieux que tout d'un coup, les places vont devenir plus inclusives. Ça va surtout être une représentation qu'on peut dire descriptive, dans le sens qu'on fait juste, ils sont juste présents dans leur, en tant que personne, en tant qu'individu. Mais si les structures, ils changent pas, c'est sûr que c'est pas que ça sert à rien parce que c'est important la représentation, parce que les gens, ils vont pouvoir se reconnaître beaucoup plus dans les gens qui les entourent, dans, mettons, un corps policier, dans le corps professoral, peu importe. Mais par la suite, ce qu'on voulait surtout comme sortir un peu dans le podcast, même en général, c'est comment ces personnes-là sont traitées quand ils rentrent dans ces institutions-là. Et aussi, quelles sont les règles, quels sont les codes éthiques, quels sont... qu'est-ce qu'ils doivent respecter par la suite quand ils sont là? Parce qu'en bullying, comme on dit, un policier, si le but en tant que tel de la police, c'est être la force coercitive de l'État, bien, ça change... Le fait qu'une personne soit noire, ça change pas le fait que le but en tant que tel d'un policier, c'est ça. Donc, je pense que c'est un peu contribué important là, de rajouter.
Yes.
Mais justement, vous parlez de structure. Là, et dans votre vision idéale, ce serait quoi, mettons, une structure comme plus inclusive? Parce que moi, en ce moment, vous me dites, mettons, sélectionner quelqu'un parce que, mettons, cette personne-là est noire. Moi, j'ai juste en tête, mettons, les recrutements, mettons, pour des emplois. Puis si t'es pas de cette catégorie-là, si t'es pas noir ou d'une autre ethnie, peu importe, souvent, t'as même pas accès. Fait que si je comprends, vous êtes un peu moins pour ça.
Ouais, ben tu pour répondre un peu à ça puis pour répondre un peu à ce que Nemo a dit, justement je donne un exemple dans le fond le directeur général du SPVM en ce moment c'est Fadi Daguerre Et lui, dans le fond, ce qu'il a apporté, lui, dans le fond, il était avant directeur général du service de police de Longueuil. Puis lui, justement, il est arrivé avec une logique de, tu sais, lui, il croit vraiment au racisme systémique. Il dénonce tout ce qui est le profilage racial, toutes les violences policières envers des minorités, parce que bon, Montréal, c'est quand même assez multi-ethnique, là. Je pense que beaucoup de gens le savent. Puis lui, justement, il est dans une logique de réconciliation et de... Il veut redonner confiance. Il veut que la population refasse confiance aux policiers, parce que les policiers sont quand même là. Même si les policiers, c'est les représentations de l'État, tu sais, je suis pas non plus dans une logique vraiment d'aliénation des policiers, puis qu'ah, ils sont tous mauvais, mais ça reste quand même qu'ils sont là au service de la population. Puis c'est important justement que la population se sente protégée par ces gens-là. Donc je pense que justement, des gens comme Freddy Daguerre qui comprennent si... de fois, ces réalités-là sont si importantes qu'ils soient au top là, des hiérarchies, ou que sans nécessairement retirer, admettons, des gens déjà en place, je pense que si on veut vraiment faire de l'intégration, c'est que les gens qui soient au top des hiérarchies travaillent avec des gens de ces milieux-là, justement, qui peuvent en fait là, avoir différentes difficultés, dépendamment de leur origine, de leur ethnie, tout ça. Puis je pense que c'est important aussi de considérer ça. Puis comme tu disais, là, Caroline, par rapport au recrutement qu'on voit souvent, on recherche des gens plus de telle ethnie, plus de différents groupes. Je pense que à un moment, si on veut atteindre l'égalité plus formelle, dans le sens de l'égalité formelle, c'est l'égalité qui... d'un fond qui va tenir compte des différentes problématiques.
Chaque milieu de chaque personne, ça va pas être... Ouais. Exemple, mettons, on donne à tout le monde 15$ pour aller manger, mais il y en a qui n'auront pas besoin de 15$ pour aller manger, il y en a qui vont avoir besoin de plus, c'est plus ça.
Exactement. Et ça, by the way, égalité formelle...
Non, ça, c'est l'égalité réelle, excuse-moi. Formelle, c'est on donne à tout le monde 15$.
Exactement. Ouais. Donc, égalité formelle, by the way... on a vu ça dans le cours de droit et liberté à l'Université Laval, donc si vous voulez prendre le cours, allez le prendre. Mais tu sais, je pense que justement, si l'égalité formelle, ça reste important, puis ça veut dire que il y a des gens qui vont nécessairement avoir une espèce de traitement différentiel. Puis mais tu sais, je pense qu'aussi, je comprends aussi le dans le sens où si tu vois une annonce qui dit ah, on n'accepte pas je sais pas moi les blancs ou les, tu sais, dans différents postes, je pense que les gens ont aussi le droit de d'être fâchés, puis de ben tu sais, c'est pas vrai, moi j'ai des qualifications, pourquoi je pourrais pas rentrer. Mais je pense que tu sais, de un, faudrait faire peut-être plus de sensibilisation et plus d'écrire explicitement là ce qu'on veut rechercher là-dedans, parce que je veux dire, si une personne voit ça puis elle se dit juste ok, ça c'est juste raciste envers moi. Mais je pense qu'aussi ce qui est important, parce que tu sais, le but recherché dans ces annonces-là, puis ces recrutements-là, c'est d'engager plus de gens dans la diversité. Mais, tu sais, moi, je trouverais pas ça le fun si admettons, je réalise que je suis peut-être juste un quota de plus là, dans une, okay, dans une organisation. Parce que, comme j'ai dit encore une fois, puis Nema va pouvoir rajouter là-dessus si elle veut. Mais, tu sais, on est tous des gens. Tu sais, moi, je pense à mon père qui a fait un doctorat, genre en Allemagne, puis qui est genre. Tu sais, là, il est à l'ONU, là, puis il a écrit 2 livres. Si, finalement, tiens, mettons, il se fait recruter, puis finalement, c'est juste parce que l'entreprise, elle avait genre 2 quotas, genre 2 chiffres à atteindre, puis il fallait qu'elle atteigne genre 10 noirs, mm-hmm. Puis il a juste pogné de main, puis il a dit « Ah, tu seras mon 10e noir dans ma compagnie, là. » Tu sais, je pense que c'est insultant aussi, en tant qu'individu, puis je pense que pour peut-être pallier à ça, justement, comme j'ai dit, c'est... De un, sensibiliser les gens par rapport à ce qu'on veut atteindre dans ces recrutements des différentes ethnies. Puis, justement, peut-être essayer de changer la mentalité au-dessus pour qu'on ait plus, plus besoin de faire des quotas, genre, numériques à ce niveau-là.
Mm-hmm. Oui, je suis vraiment d'accord. Puis, un peu pour rebondir sur ce que tu disais par rapport on pourrait dire des quotas ou le nombre de personnes, je pense que faut qu'on commence quelque part, puis faut qu'il y ait des incitatifs d'une façon ou d'une autre qui fait en sorte que les personnes qui normalement y auraient peut-être été, qui auraient peut-être pas eu les postes, ben ils puissent avoir la chance d'être dans ces institutions-là. Puis je pense aussi à fait juste en politique, il y a quand même le principe de représentation qui, mettons pour les femmes, moi j'avais fait un travail sur ça, puis je voyais en fait que mettons dans les assemblées, souvent, ce qui arrive, c'est que c'est à partir, il y a comme une masse critique, on peut parler de représentation. Fait que quand on est rendu à 15 % de femmes qui sont dans une assemblée législative, c'est là souvent qu'ils vont plus pouvoir se mettre ensemble ou s'allier pour des intérêts qui sont plus féminins. Dans le sens que, des fois, on a besoin de ces incitatifs-là pour que, en fait, il y ait plus de personnes, mettons, de X minorités qui vont pouvoir se mettre ensemble, qui vont pouvoir faire un vrai changement et que c'est pas juste t'es là, mais tu restes un peu exclu, tu restes un peu... Mm-hmm. Les mentalités peuvent pas vraiment changer puisque t'es la seule personne qui uphold un peu la différence, on va dans un sens. Donc, moi, je pense que ça reste que c'est important. Puis, il y a aussi l'autre côté, comme Paul disait, ça reste qu'on veut... Il n'y a pas personne qui a envie non plus de savoir que tu as un poste juste parce que tu es noire, tu es une femme, tu es ci, tu es ça. Je pense qu'en tant que tel, souvent, il ne faut quand même pas oublier qu'il y a quand même des caractéristiques et des critères là, pour tout poste ou pour tout emploi. Donc, les personnes noires ou les personnes issues de X-diversité vont pareil avoir... sont déjà qualifiés aussi pour être là. Fait que, tu sais, je pense que des fois, il y a des gens qui peuvent voir ça comme étant un peu d'un mauvais œil, là, de « Ah, ben c'est juste parce qu'il est noir ou peu importe. » Ben, elle a pareil aussi toutes les capacités, toutes les compétences pour être dans cette place-là. Puis genre, c'est ça. Je pense aussi ça devrait être important de rajouter un peu les deux, là.
Non, mais je comprends ce que tu dis, justement, là, tu sais. On parle de, tu sais, ça, de, justement, de comme inclusion puis tout. Puis, tu sais, si même on inclut les personnes selon un certain quota, si on leur dit... « Hey, ben, hey, là, probablement juste parce que t'as telle couleur de peau, elle fait partie de telle ethnie, rendu là, je pense que même si on essaie de bien faire en mettant un nombre à atteindre, on vient complètement défaire un peu comme la bonne ambition qu'il y aurait derrière.
Mm-hmm, » exactement. Fait.
Tout à fait, ouais.
Aviez-vous, mettons, genre, des solutions, ben, vous l'avez un peu dit, là, mais mettons comme... Mettons, je prends, par exemple, quelqu'un qui applique dans une université. Là, ben, ils ont un programme, qu'ils ont un nombre à atteindre, mettons, justement, de 15 % mettons, dans le programme. Est-ce que, mettons, vous aimeriez plus que tout le monde envoie sa candidature, peu importe, puis les autres, ils vont juste, mettons, selon, tu sais, ton rapport de notes et tout, mais mettons, ton nom de famille est là, ou ils vont plus par comme, OK, ben ils ont les bonnes notes, ils feraient partie du quota, on les veut, on les prend. Je sais pas si vous comprenez ma question.
Ouais. Ben, je peux peut-être essayer de tenter de répondre, puis je pense qu'en fait, justement, là, si on part justement de la logique du racisme systémique, c'est que, justement, prenons par exemple les États-Unis. Tu sais, les États-Unis sont basés sur un système qui, évidemment, est hiérarchisé, qui ne considère pas nécessairement tous les mêmes individus sur le même pied d'égalité. Si on dit justement qu'il y a du racisme systémique, tu sais, c'est un système qui vit de 300, 400 ans, et notamment certaines universités comme Harvard ont pratiqué, par exemple, du racisme avant, là, dans leur université. Je pense que souvent, quand on dit des quotas, c'est justement, on se dit que le système est tellement défaillant qu'on peut pas laisser. Ah, mettons, on pourrait pas, genre, dire aux gens, OK, genre, il faut que vous allez accueillir plus de noirs, dans le sens où les gens vont pas le faire de eux-mêmes. Donc, on se dit qu'on doit racheter des quotas pour, enfin, genre, intégrer les gens, genre, pas par la force, là, mais genre, c'est de manière un peu forcée. Puis, je pense que justement, là, ce serait, comme j'ai dit, c'est vraiment plus d'essayer de changer les mentalités, puis changer les mentalités sur des gens qui sont au-dessus. Puis, justement, je pense que c'est qu'on s'en a parlé pour que ça se fasse naturellement. Parce que notamment, si je peux en... je pense que c'était dans les années 60-70 que les femmes au travail, ça commençait vraiment à être démocratisé, puis que ça commençait à être genre normal. Puis en tout cas, j'ai pas les informations exactes là-dessus, donc je peux pas m'avancer trop, mais je sais pas s'il y a eu des quotas au début de « Ah, faut avoir telle femme dans telle entreprise. » Mais disons aujourd'hui, en 2020... Si, admettons, tu cherches une nouvelle personne dans ton travail, tu sais, que ce soit une femme ou un homme, je sais pas encore
ça
si...
Ça n'a plus vraiment d'importance.
Tu sais, je sais pas encore si les gens vont se dire « Ah, man, elle m'a prendre une femme pour que ce soit paritaire, tu sais. Ouais. » À part c'est au gouvernement, là, je sais pas, là, mais... Tu sais, donc je pense qu'il faut essayer d'aller vers cette espèce de normalité où tu te dis « Ah, je veux pas que... » tu sais, oh, tu sais, genre, j'ai 10 blancs dans mon entreprise, faut peut-être que j'aille un noir, là, tu sais, pour compenser, là.
Ouais.
Je pense que ce serait peut-être aller vers le niveau de normalité qu'on a maintenant quand on engage des femmes.
Oui.
Ouais. Mais en même temps, on dirait que, tu sais, veut pas l'intégration des femmes dans le système, ça a été par des lois, tu sais, disons, là, la femme peut voter, là, ça, tu sais. Fait est-ce que tu crois que, parce que là, tu sais, je t'entends parler changer au-dessus, est-ce que tu penses que, justement, faudrait y aller? Parce que, tu sais, on parlait que les quotas, c'est comme moins bon, mais tu sais, faudrait-tu encore y aller vers des formules législatives pour avec le temps, rendre ça normatif ou juste essayer de changer par la mentalité et la sensibilisation?
Moi, j'aimerais peut-être répondre sur ça, parce que pendant que Paul parlait, je pensais juste au fait que d'un côté, quand on commence avec l'imposition, on va dire, d'un quota ou d'un nombre de personnes dans une institution ou dans le marché du travail, je pense que, tu sais, en bout de ligne, ce qui arrive, c'est que tant qu'on laisse pas la chance, en même temps, aux femmes ou aux personnes noires ou aux personnes de minorité X, ben ils peuvent pas, on peut pas vraiment savoir s'ils sont capables de le faire. Dans le sens que, des fois, il y a beaucoup de stéréotypes. Je pense qu'il y a beaucoup de stéréotypes qui vont se briser par eux-mêmes, par l'action et par le fait qu'il y a un certain nombre de personnes noires ou de personnes de X diversité. Donc, je pense que ce côté-là aussi, que les femmes ont dû se prouver, pareil, quand elles sont rentrées sur le marché du travail, puis que nous aussi, on est en train de se prouver, ou peu importe, dans le sens que l'intégration et le fait même d'avoir ces personnes-là dans ces institutions-là est très importante sur cet aspect-là de ben regardez, je suis ici, puis je suis capable de faire la job comme n'importe qui, puis que je peux continuer, puis que plus tu fais capable de faire confiance à ces groupes-là, que peut-être que normalement, t'aurais dit, ah ben, le gars qui, je sais pas, l'homme, le Mathieu Tremblay, peu importe, là, genre, que tu sais, dans le sens que le petit stéréotype, que t'es habitué, puis t'es capable de, tu sais, t'as des expériences avec ces personnes-là, donc dans ta tête, c'est plus facile de dire, ben oui, je peux y faire confiance. Puis je pense que ça part par une intégration. Puis, tu sais, l'autre partie d'un peu du podcast, c'était un peu le côté de, quand ces personnes-là arrivent dans la place, c'est quoi l'attitude qu'on a envers eux, c'est quoi les propos qui se passent, comment que eux, ils se sentent dans ces endroits-là, pour aussi faire en sorte que les gens y restent.
Ouais, je comprends ce que tu dis. On dirait, je trouve ça comme... Ça me donne l'espoir, là. Je veux pas, tu sais, comment vous parlez, mais on dirait en même temps que va falloir être patient, tu sais. Ça va être avec le temps, puis comme la femme, tu sais. Ça a été long avant que la femme ait plus de droits. Ça a été, maintenant, c'est rendu comme normal, puis il y a de l'espoir, c'est possible. Mais il faut juste qu'on laisse quand même le temps, puis qu'on continue à faire les actions qu'on peut en attendant que ça devienne comme intégré dans les mentalités des gens.
Oui, puis tu sais, même le côté de changer les mentalités, ça a l'air tellement large, mais je pense que ça part juste du fait du premier contact que tu as avec les autres personnes. Tu sais, je veux dire, moi, je sais que je suis dans des cercles où que je suis peut-être la seule amie noire de mes amis, puis que tu vois, Paul rit en ce moment, mais tu vois un peu les questions que tu te fais poser ou juste dans les soupers de famille quand je vais chez eux, puis ça apparaît, mais en même temps, plus... T'as des gens qui sont là autour de toi, t'es capable de poser tes questions, on va dire, ou que ça devient un peu normalisé dans un sens. Donc, je pense que c'est ça qui est important.
OK. Je vais t'arrêter là-dessus. On va aller prendre une courte pause. Puis après, moi, je suis curieuse de savoir... Ben, je suis curieuse, même si j'ai un gros doute. C'est quoi vos questions que vous faites poser, mettons, puis comme les stéréotypes qui reviennent. Donc, revenez-nous après la pause à A priori sur les ondes de Schiste 94.3. De retour à A priori sur les ondes de Schiste 94.3. A priori, c'est le balado des étudiants et étudiantes en affaires publiques et relations internationales de l'Université Laval. Je suis toujours accompagnée de Paul et de Néma. Puis avant la pause, on a coupé ça un peu sec, là, si je peux dire. C'était, on parlait dans le fond de les stéréotypes un peu, puis les mentalités encore qui arrivent avec l'inclusion, puis à quel point c'est encore difficile. Puis... Néma, juste avant la pause, tu nous parlais justement de quand t'allais dans des soupers, vu que souvent t'étais comme la seule amie noire, tu te faisais comme poser des questions et tout. Puis là, j'étais curieuse de savoir c'est quoi les genres de questions, même si on... D'après, j'ai un petit doute.
Oui, ben, on dirait que dans ma tête, en ce moment, j'ai juste pensé, surtout avec mes cheveux, je dirais, en ce moment, je porte des tresses, puis je change souvent mes cheveux, donc je pense qu'il y a les parents, des fois, qui ont des petites questions sur si c'est mes vrais cheveux ou genre... comment c'est si long, faire des tresses, des trucs comme ça un peu, ou quand que j'ai mes cheveux naturels, puis là, ils comprennent plus trop qu'est-ce qui se passe. Fait que c'est comme des affaires de même qui est un peu drôle, mais qui, en bout de ligne, après que j'aille expliquer, puis qu'on aille parler, on fait juste en rire, puis ça finit là, puis en tant que tel, moi, ça me dérange pas plus que ça non plus, là.
Tu vois ça un peu comme... tu sais, mettons, moi, je me dis... Souvent, moi, quand je vais poser, mettons, une question de même, ça va être par curiosité, pas nécessairement par méchanceté. Ça, tu le prends-tu de même aussi, ou des fois, ça t'insulte vraiment?
Non, je prends vraiment ça comme ça, dans un côté qui est une curiosité. Je pense que ça dépend toujours de l'intention ou de la façon que ça a été dit. T'sais, je pense qu'il y a toujours une différence entre, je sais pas, genre venir me toucher les cheveux puis être très dans mon espace ou que ça, je pense que ça serait plus, j'aurais besoin d'un certain boundaries. Mais en tant que tel, non, moi, j'ai pas eu d'expérience, en tout cas avec des parents ou que je me suis dit, ou même des amis des fois qui m'ont posé des questions puis je me suis dit que c'était vraiment déplacé. Mais c'est sûr que des inconnus dans la rue, des fois, ça peut devenir déplacé quand que c'est des personnes que je ne connais pas et que, pour vrai, il y a du monde qui s'en permet un peu plus. Ouais. Donc là, c'est dans ce sens-là que même s'il y a une curiosité, on en avait parlé avec Paul un peu, même si l'intention, c'est un peu de savoir plus puis un peu de juste vouloir avoir des petites réponses à leurs questions, des fois, la façon que c'est dit ou la façon que c'est amené, tu restes un inconnu. Je vais magasiner, je suis pas obligée de vraiment te répondre. Puis des fois, il y a du monde qui le prennent un peu mal quand on répond sec ou peu importe. Parce qu'en tant que tel, je fais juste faire ma petite journée. Je suis pas... C'est ça.
T'as pas, y a-t-il des questions qui reviennent souvent maintenant?
Ah là là!
Oh!
Ah bon, écoutez, je vais pas non plus essayer d'alourdir le podcast, là, mais j'ai quelques petits exemples à donner. Là, puis, parce que je pense que ça peut... Ben, en même temps, c'est drôle, en même temps, c'est pas tant drôle, mais... En tout cas, donc, justement, premier exemple, puis ça, je tire ça de l'entrevue que j'ai faite avec mon ami Manu et Chris. Là, c'est l'expérience de Chris, non, de Manu en particulier, mais je trouve qu'il était quand même assez pertinente. Dans le fond, là, celui, souvent, lui, il faisait du basket quand il était plus jeune, puis souvent, il allait dans les tournois de basket. Je pense que, je sais pas si c'était un parent ou un membre du public, mais en tout cas, c'était quelqu'un, un adulte, qui souvent, tu voyait la team de Manu, puis c'était, Manu, c'est un noir, puis c'était tous des noirs, OK? C'est très important.
Dans l'équipe?
Dans l'équipe. Puis là, tu sais, souvent, tu es au basket, t'es là, tu sautes. Puis là, il y avait une personne qui disait, « Ah, oh, mais vous, là, hey, vous, les Noirs, sautez haut comme des singes, là. » Puis, yo, quand il m'a dit ça, de deux, j'étais là, mais, tu sais, OK, le gars est quand même très, ben, gars, la fille, je sais pas. Puis genre, t'es la personne qui a dit ça, et first, est comme très bold. Puis c'est juste, genre, je pense que ça témoigne juste d'une ignorance quand même situationnelle, parce que bon, tu compares des noirs puis des, I mean, je sais pas, là, je veux dire, je pense quand même qu'il y a un passif là-dessus, puis tu sais, je trouve quand même que, parce que tu sais, moi j'ai pas été là, puis en tout cas je pense que lui il l'a pris comme une insulte, là, ce qui est très compréhensible, mais tu sais, tu peux pas nécessairement savoir si la personne est vraiment juste stupide ou comment dire, elle a vraiment dit ça avec méchanceté.
Un manque d'information.
C'est ça. Peut-être un manque d'information ou de la malice, mais ça, on ne pourra jamais savoir. Puis, tu sais, moi, souvent, là, ce que j'ai eu, souvent, c'est peut-être ce qu'on appelle des micro-agressions. Donc, c'est pas... Mais je vais l'expliquer, là. Mais, admettons, c'est genre, admettons, tu sais, on te dit, « Ah, hey, Paul, toi, tu viens d'où? » Puis, tu sais, moi, tu sais, on sait tous que je viens du Togo. Mais si on a un Yékidien qui dit, « Ah, tu viens du quoi? Du Congo, man! » Puis, tu sais, genre, des fois, je dis, « Non, Togo. » Puis, admettons, tu sais, moi, mon nom de famille, c'est Bouaka. Puis notamment, là, je peux... Bon, OK, non, je vais pas dire où j'ai été, là, parce que je vais pas me mettre dans la marre, mais à un moment donné, je devais, tu sais, dire mon nom complet. Puis, tu sais, je considère quand même que j'ai un nom de famille pas tant compliqué que ça, là, tu sais, il y a pas tant de consonnes. C'est quand même assez facile à dire, mais je devais dire mon nom de famille, tu sais, je disais Paul Lionel Bouaka. Puis la personne qui a pris mon nom, en fait, « Hein? Quoi? D? » C'est non, bébé, Bouaka. Quoi? D? » Puis là, genre... Je répétais, ça arrêtait pas. Yo, j'étais tanné. Parce que, tu sais, c'est pas la première fois que je répétais mon nom de famille.
Ouais.
Mais, quoique, genre, ces derniers temps, c'est pour vrai, genre, je pense que les gens sont habitués à moi. Je suis l'impression que j'avais une star au Québec, là. Mais, genre, non, mais, parce que quand j'étais. quand j'étais plus jeune, tu sais, mon nom, là, c'était genre, il y en a qui écrivaient Bois Clair, il y en a qui écrivaient, genre, O-I-K-E, là. Puis genre, mon nom était jamais bien écrit. Tu sais, même pas Lionel, genre... le nom Lionel, on dirait que les gens le connaissent pas, en tout cas. Puis fait que ça faisait que des fois... tu sais, souvent, quand tu dois toujours te répondre sur ton nom, tu sais, c'est genre... Ça, je pense que ça peut aussi donner un coup au niveau de l'intégration au Québec. Ouais. Donc,
trouves-tu que c'est comme dans le fond, si je comprends, tu trouves que c'est un manque d'effort, un peu?
Ouais, tu sais, c'est-à-dire que... Tu sais, moi, je suis arrivé au Québec en 2003, puis tu sais, genre, j'ai grandi quand même à... Au début, j'ai grandi à Meseric, qui est à Limoilou. Puis après, j'ai déménagé à Beauport, qui est quand même assez blanc. Là. C'est pas une insulte, là, c'est juste un constat. Ça fait que je pense qu'au début, il y a comme une ignorance culturelle qui arrive.
Okay. Ouais.
Pour moi, l'ignorance culturelle, c'est pas la même chose que le racisme, dans le sens où l'ignorance culturelle, c'est vraiment que, tu sais, mettons, si t'as grandi dans le bois, genre, sur une ferme, là. Si t'as grandi sur une ferme toute ta vie, pis t'as pas eu de contact avec d'autres noirs, tu sais, parfois que ce soit un noir, tu sais. Moi, je peux pas relate parce que moi, je suis né en Allemagne, pis la première personne que j'ai vue, c'est une sage-femme blanche, là. non, mais quand même. Non, mais tu sais, dans le sens où je comprends quand même que si. Ok, faut rester sérieux. Ok, donc, non, mais tu sais, dans le sens où je comprends quand même que si tu grandis dans un milieu qui est plus fermé, pis tu sais, si t'as aucun contact avec des gens, mettons, de genre d'autres ethnies, c'est normal, admettons, de dire ah, tu sais, ce qu'on voit en Afrique, là, avez-vous de l'eau, avez-vous de l'électricité? Parce que tu regardes genre Radio-Canada ou TVA Nouvelles qui font un reportage sur l'Afrique, man, le sida fait rage, la famine, tu sais, je veux dire, si toi ton contact avec des gens noirs, c'est juste des reportages d'eux-mêmes, c'est normal qu'après, quand une personne qui, surtout dans ton entourage, qui est noire, ben tu lui poses ces questions-là. Puis surtout, admettons, j'ai discuté avec Nema, mais tu sais, quand on est jeune, quand on est enfant, en tout cas, quand on a moins de 18 ans, tu sais, il y en a, tu sais, moi, je suis allé au privé. Puis dans le fond, là, tu sais, mon école secondaire, on était à peu près 7-8 noirs sur 1100 élèves.
OK, fait quand que,
même. Fait que, tu sais, en même temps, par niveau, il y avait genre peut-être 1-2 noirs. Puis il y avait mon cousin, en plus, dans l'école. Fait que... non, mais tu sais, dans le sens où, tu sais, je connaissais la part des noirs à l'école, je les connaissais. Puis, tu sais, très souvent, tu sais, c'est genre, ah ouais, puis c'est Lili, ah ouais, mais avez-vous de l'eau en Afrique? Tu sais, ça arrivait souvent.
Avez-vous de l'eau, oui.
Non, mais tu sais, non, mais genre, ça paraît crazy dit aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on a la connaissance, mais il y en a qui se disaient, man, ah, oh, les Africains, man, tu sais, les reportages qui sont sur la famine, puis tout, puis genre, ah, oh, l'Afrique, c'est pauvre, l'Afrique, c'est ici. Mm-hmm. Puis, oh, tu sais, moi, ça fait quand même beau, je suis retourné en Afrique, là, mais tu sais, je suis allé à Abidjan en 2012-2013, puis tu sais, Abidjan, c'est comme un pôle important, tu sais, t'as de la famille, toi. Ben non, t'as pas de la famille, mais t'as un membre de ta famille qui t'y voit rien. Et, tu sais, tu vois, à Abidjan, il y a des gros gratte-ciel. Puis, tu sais, il y a la CAN récemment qui était à Abidjan. Ben, on est en Côte d'Ivoire, là, mais plus particulièrement à Abidjan. Puis, tu sais, tu vois, là, tu vois en Afrique, puis genre, que ce soit en Afrique du Sud ou même dans d'autres pays d'Afrique, tu vois que c'est quand même développé. Puis, j'ai l'impression que surtout au Québec, c'est pas tant, genre, publicisé. Même si c'est vrai qu'il y a des problématiques qui sont très graves qui doivent être traitées, je pense que justement, comment on traite ces nouvelles-là qui viennent de l'international, je pense que c'est important justement de vous montrer aussi le bon côté parce que. Ça va éviter le fait de te demander à chaque fois si t'as l'électricité chez toi, puis si t'es, genre, ta famille vit dans des cabanes. T'sais, moi, ma famille, genre, qui est au Togo, par exemple, je peux en parler, il vit quand même bien, là, tu sais, je veux dire, sûr qu'il gagne pas 500 000 piastres par mois, mais je veux dire, tu sais, c'est pas tout le monde qui est en Afrique qui est pauvre.
Mmh. Il a la, ah non, c'est comme que, une généralisation.
Exactement. Ouais. Puis je pense que excuse-moi.
Non, vas-y.
Mais je pense que c'est juste que la tranche des gens qui sont sous le seuil de pauvreté est plus grosse. Mais tu sais, même mon père travaille en Haïti, pour la mission de l'ONU. Puis il y avait il y a un quartier à Port-au-Prince qui s'appelle Belleville. Puis c'est son quartier, c'est un gated community. Dans le sens où c'est des espèces de genre, des villes dans des villes où genre t'as des gros portails, puis t'as genre des gardiens au portail, puis genre, okay. Pour rentrer, il faut que tu présentes, faut que tu dis. Genre, si tu visites quelqu'un, tu dis, ah, je visite telle personne, ou, si j'habite là-dedans, puis c'est des hyper gros, c'est genre des manoirs, là. Fait que, je pense quand même que c'est important, pour faire un petit condensé, c'est important, justement, de publiciser aussi les côtés bénéfiques à l'international pour que, justement, les gens qui sont ici, qui sont d'origine africaine ou autre, puissent aussi, genre.
Bon. Mm-hmm. Tantôt, tu parlais des traits cinéma, là, puis ben, de tes cheveux. Ça m'a fait penser, il y a un sujet quand même assez, ben, pas tabou, mais j'aurais un sujet chaud souvent qui ressort, c'est, je trouve, l'appropriation culturelle. Exemple, tu vois quelqu'un une personne blanche qui va avoir des tresses comme toi. Personnellement, est-ce que tu trouves que, oui, c'est de l'appropriation culturelle ou, ben, c'est pas plus grave que ça? Parce qu'on dirait que je trouve que l'opinion est vraiment comme dispersée.
De mon côté, oui, je pense que c'est de l'appropriation culturelle. Mais on dirait que. Comment dire ça? Pour moi, genre, c'est. Parce que je pense qu'il y a une histoire quand même qui vient avec ça, avec les tresses. Je veux dire, pour nous, c'est une coiffure aussi qui est protectrice. Il y a beaucoup de, il y a beaucoup de temps qui est mis sur ça. J'ai un moment qui est aussi très spécial. Mettons, personnellement, moi, c'est ma mère qui fait mes tresses. Okay. Donc, on vit ce petit moment-là à chaque fois. Puis, il y a beaucoup d'autres femmes noires qui peuvent aussi en parler. Puis, il y a aussi le fait qu'il y a beaucoup de racisme que des femmes noires aussi vivent par rapport à leurs cheveux. C'est dans le sens que, moins tu vas. Il y en a beaucoup que. on va devoir réfléchir un temps à la façon qu'on va mettre nos cheveux pour une entrevue. Parce que si tu as tes cheveux naturels, VS, si tu as une perruque ou si tu as des tresses, tu es perçu différemment. Puis même, il fallait regarder sur Internet, il y a plusieurs exemples de femmes noires qui ont été, qui sont faites soit dire que leurs cheveux n'étaient pas professionnels quand il y avait des tresses ou quand il y avait des cheveux naturels, ou soit qui sont faites renvoyer. Tu sais, c'est des gros exemples que, tu sais, en ce moment, on n'avait pas prévu en parler exactement, fait que j'ai pas les exemples précis, mais c'est un enjeu qui nous touche quand on met des tresses. Et une personne blanche qui va mettre des tresses, elle va aller au travail, puis on va dire « Ah, oh, c'est tellement exotique, oh, c'est tellement beau, tu sais. » Puis en bout de ligne, t'enlèves tes tresses, puis là, tu recommences ta vie comme si rien n'était. Fait que je pense qu'il y a un peu une genre de... une situation un peu de pouvoir, puis un déséquilibre entre quand moi je mets des tresses, qu'est-ce que ça veut dire, puis quand toi tu mets des tresses, qu'est-ce que ça veut dire. Donc pour moi, je pense que les personnes blanches devraient juste pas en mettre. Des tresses, surtout comme qui ont plus un héritage.
Aujourd'hui, en 2024, quand tu te prépares pour une entrevue, tu refais-tu ta tête si tu as peur que ça soit mal perçu ou non?
Non, je pense pas que. En ce moment, je pense que c'est ce qui arrive surtout, c'est qu'il va y avoir une réflexion. Mais personnellement, je pense que je suis à l'aise dans un peu n'importe quelle coiffure. Mais il va toujours avoir le côté de. Le fait même que je dois réfléchir à est-ce que si je me pointais avec un afro, comment je serais perçue? C'est plus dans ce sens-là. Je pense que c'est ça qui est le problème. T'sais.
Je comprends ton point. Mais justement, on parle de se présenter dans des entrevues et dans des endroits, des milieux plus professionnels. Toi, je sais que tu as participé au Parlement étudiant en décembre dernier, si je me trompe
janvier.
Pas. Janvier dernier. Puis je sais que tu voulais justement aborder ce sujet-là par rapport à justement l'inclusion et la représentation.
Oui, c'est fun de pouvoir en parler. Je pense que ça a été, honnêtement, ça a été une expérience qui est, c'est un peu ça qui a déclenché mon envie de faire le podcast. C'est moi, People, on en avait parlé pendant longtemps. Mais j'étais un peu plus stressée à l'idée de faire un podcast, puis surtout pas nécessairement pas savoir quoi dire, mais je pense que c'était quelque chose qui me rendait plus anxieuse. Puis quand que ça s'est passé, les événements au PEC, que je vais appeler là, le Parlement étudiant du Québec, je me suis dit, bon, je pense que ça vaut la peine d'aller en discuter. En fait, pour faire bref, le Parlement étudiant du Québec, c'est une simulation parlementaire dans laquelle on est deux caucus, les rouges contre les bleus, puis on fait vraiment comme si on était des députés. C'est du 2 au 5 janvier, en fait. Puis là, c'était la 37e édition.
OK.
Puis, normalement, les rouges, ils ont une idéologie qui est plus de droite conservatrice. Et les bleus, c'est plus de gauche progressiste. Puis, moi, je faisais partie des rouges. Puis, tu sais, en bout de ligne, c'est une simulation. Donc, on est là pour s'amuser. C'est un personnage qu'on se donne. Ouais. Donc, pour moi, personnellement, faire partie du caucus plus de droite, ça me dérangeait pas plus que ça. Puis, moi, j'ai eu la chance, en fait, là, d'être ministre quand j'ai été au PEC cette année. J'étais celle des grandes dames, donc la condition féminine, puis la lutte contre le racisme.
Okay.
Fait que c'était cool. Puis, tu sais, on avait deux journées. On avait une journée qu'on était, en fait, on avait des journées à l'opposition, puis des journées au gouvernement, pour vraiment comme tout vivre les expériences qu'on peut avoir là, quand on est des députés. Puis, par la suite, c'est ça, moi, j'ai eu la chance de faire une déclaration ministérielle. Puis, en fait, il y a eu beaucoup d'autres événements qui sont comme arrivés vers les derniers jours, comme on pourrait dire, là.
Puis, dans le fond, c'est que tu voulais en parler parce que tu as remarqué justement que le monde était plus informé par rapport au racisme, mais pas racisme systémique, mais je voulais dire l'inclusion et la représentation ou
juste... Oui et non. Je pense que c'est, je pense, je dirais même à prime abord ou a priori, quand je suis arrivée ici.
Bon genou.
quand je suis arrivée ici, au PEC, moi, j'avais vraiment l'idée que, on est du monde très politisé, on est des gens tout engagés quand même. Si tu as décidé de prendre une semaine complète de ta vie ou que tu travailles pas et que la seule chose que tu fais, c'est faire semblant d'être un député, tu as quand même un certain niveau d'engagement. Là. Moi, quand je suis arrivée là-bas, c'est sûr que mon idée... Mais je pensais pas, en fait, vivre une situation comme c'est passé. En fait, il y a eu une situation, je vais pouvoir l'expliquer dans pas très longtemps, là, mais qui était quand même, je dirais, raciste. Là. Ça a été comportements quand même assez flagrants. Puis, en fait, en plus, Paul en a un peu parlé avant, ça a un peu fait rebondir. Mais, tu sais, je pense juste avant, je pense que j'aurais voulu peut-être juste vous expliquer que avant que ça arrive, tu sais, moi, j'avais fait une déclaration ministérielle dans laquelle j'avais comme parlé d'un des livres que j'ai lu qui s'appelle « Why I'm no longer talking to white people about race okay. ». Puis j'avais fait une petite... J'avais comme fini mon speech en parlant du fait que, en fait, ben, je peux le lire, en fait, c'est, ça dit en fait que lorsque les Blancs prennent un magazine, parcourent l'Internet, lisent un journal ou allument la télévision, il n'est jamais rare ou étrange de voir des personnes qui leur ressemblent en position de pouvoir ou d'autorité. Dans la culture en particulier, les affirmations positives de la blancheur sont si répandues que le Blanc moyen ne les remarque pas. Être Blanc, c'est être humain. Être Blanc, c'est universel. Je le sais parce que je ne le suis pas. Puis, moi, c'était dans ma déclaration que j'avais fait. Puis, okay. Même dans le reste de ma déclaration aussi, je parlais du fait que pour instaurer, mettons, le mois de l'histoire des Noirs dans le cursus scolaire et tout. Puis, tu sais, ça a vraiment été répondu d'une façon très, très, très bien, là. Genre, il y avait un député des Bleus qui devait aussi en parler. Il devait aussi faire une déclaration par rapport à ce que moi, j'avais dit. Puis, okay. Il recevait notre texte la veille. Fait qu'il était déjà préparé. Puis, c'était vraiment un moment très transpartisan. Puis, tout le monde s'est élevé. On avait applaudi. Tu sais, c'était vraiment comme, ah, c'est le fun. Unité, inclusion, youpi, tu sais.
Toi, dans ta tête, t'avais réussi ta mission.
Oui, exact. Tu sais, c'était le fun. Puis, c'était vraiment une bonne solidarité. Puis, c'est comme la première fois que ça arrivait dans le cursus, dans notre expérience du PEC. Fait que c'était vraiment nice. Et en fait, le lendemain, c'était les Bleus qui étaient rendus au gouvernement. Puis dans une journée, on avait plusieurs séances et on avait une pause dîner. Et pendant la pause dîner, il y a un de mes collègues qui était aussi un député, ben, qui était député aussi. Puis lui, c'était un gars noir, genre. Puis okay. Il a entendu un groupe des Bleus qui, dans les escaliers de l'Assemblée nationale, faisait des chants assez forts ou qui traitaient les Rouges de babouins.
Eh.
Ouais. Donc, c'est juste ça. C'était un peu un choc apprendre ça, que, tu sais, surtout le lendemain, là, ça faisait vraiment bizarre. Puis, tu sais, en temps normal, ces chants-là désignaient l'expression de faire des singeries. Puis, c'était aussi par rapport au fait que quand on croit qu'on est à l'opposition, ben il y a des bureaux, en fait, que ça s'appelle la déplaisance. Puis, ces gens-là sont normalement... On leur demande d'avoir plus des expressions plus fortes, puis par rapport à tout ce que le gouvernement va dire. Puis c'est vraiment normal. Puis ça arrive aussi là, dans les à l'Assemblée nationale, normalement. C'est dans le sens que, comme, qu'est-ce que l'opposé va dire? Tu vas toujours comme réagir en mode « Ah, c'est pas vrai, nanana. » Puis pour eux, c'était un peu ce côté-là de dire que c'est des singeries. Puis c'est ça, donc il y avait vraiment ces chants-là qui étaient dits. Puis, dans un contexte où on était 6 personnes racisées du côté des Rouges, dont un qui faisait partie de la déplaisance, et que même dans leur caucus à eux, il y avait 3 personnes aussi là, racisées, bien, c'était juste pas acceptable que des chants de même soient dits, surtout à l'Assemblée nationale, tu sais. Fait que ça a été un peu un choc.
Ouais, je te comprends, mais moi, j'étais un peu choquée. Puis, en plus, je me dis, c'est une initiative étudiante.
Ouais.
Tu sais, souvent, les étudiants, ils vont être plus dans des mouvements activistes. Puis souvent, ils vont revendiquer justement l'injustice sociale. Peu importe t'es de quelle nationalité, tu vas vouloir te manifester pour la justice de tout le monde. Puis, tu sais, c'est une initiative étudiante. Puis ça s'arrive, on dirait que je suis comme...
Ouais. Puis, tu sais, je pense que pour nous, c'est surtout inacceptable parce que, je veux dire, on peut l'expliquer dans un sens, mais... Le fait de dire, de traiter des personnes noires de babouins ou de singes, puis tu sais, on le savait très bien que directement, ils ne nous traitaient pas, ils n'étaient pas en train de dire « Hey, Nema, c'est Bukozo », tu comprends?
Ouais, ouais.
Personne ne l'a vu personnel en tant que tel, mais c'est juste le terme qui était utilisé, puis dans les circonstances qui étaient vraiment comme... qui ne pouvaient pas vraiment être justifiées. Puis, on s'entend que le fait de dire ça... dans l'histoire, ça a toujours été utilisé contre les personnes noires. T'sais, ça a été utilisé aussi dans l'époque de l'esclavage, de la colonisation, pour, en fait, déshumaniser les personnes noires, puis les rendre comme des objets, puis que ça puisse, qu'on puisse, après ça, pendant la colonisation puis l'esclavage, les traiter de sorte. Donc, même si ça fait longtemps que tout ça est arrivé, ça reste que, comme il vient de dire, quelqu'un qui connaît, qui s'est fait dire ça aussi, écrit. Puis...
Ben, c'est que les deux exemples, ça revient avec le même terme. Là,
exact.
C'est
en plus, c'est quand tu l'as dit tantôt, j'étais comme, ah, bon. Puis moi, tu sais, j'ai regardé un peu après, en me préparant pour le podcast, j'avais regardé, puis j'en ai déjà entendu parler, mais si on va sur Google juste écrire peau de banane, joueur de soccer, là, il y a une tonne et une tonne d'articles qui parlent de situations. Ouais. Et c'est des années différentes. Là, il y en a en 2022, en 2019, c'est très, très... En 2024, c'est très récent, puis des fois, ils se font lancer des peaux de banane, il y a des cris de singes. C'est arrivé aussi à Serena Williams quand elle elle jouait. Puis moi-même, j'ai appris aussi qu'il y avait en 2015, il y a une mairesse qui avait traité de singe en talon Michelle Obama. Tu sais, on s'entend que c'est.
Hey, mon Dieu.
C'est comme.
Hey, moi, Michelle Obama, en plus, je la vois dans mon vision board, là, oui. Cette madame-là. C'est fou.
Fait que, tu sais, c'est pas anodin comme
non,
terme.
Non, vraiment pas.
Puis je pense que dans ce moment-là, la réaction des Bleus, puis la réaction même de notre caucus, un peu, c'était ah, oh, ben. C'est un peu comme si on exagérait, mais ça a comme pris une grosse tournure en bout de ligne. Ça a quand même changé notre expérience du PEC, autant pour nous, autant que pour un peu pour tout le monde en tant que tel. Puis de l'extérieur, on peut croire que c'est comme ah, ben ils ont juste dit babouin ou ils ont juste dit singe, peu importe, puis que c'était pas visé. Mais en tant que personne noire, entendre ces termes-là dans dans des circonstances qui sont aussi spéciales, ça faisait en sorte que ben c'était un peu un triggering, tu sais, c'était comme qu'est-ce qui se passe, est-ce que je dois me défendre, qu'est-ce que, puis ça a été reçu aussi d'une façon pas très bonne, tu sais, mettons des Bleus.
Est-ce que par la suite il y a eu des, tu sais, ben les Bleus ont-tu pris conscience là que vous étiez au courant de ça, puis y a-tu eu des excuses, y a-tu eu des c'est quoi la suite de l'histoire?
Ben c'est ça le problème en fait, c'est que après que ça a été dit, ben en tant que tel le conseil administratif a quand même agi rapidement, puis il y a eu des sanctions de leur côté, donc il y a eu comme certains de leurs speeches ont été réduits, ce qui est quand même gros parce qu'en bout de ligne, tu travailles pendant longtemps, tu as pris congé, peu importe, tu es là-bas, puis finalement, tu peux pas vraiment. C'est comme ton time to shine. Fait que ça avait été coupé. Puis on avait aussi demandé à ce que leur chef de caucus fasse des excuses le lendemain. Puis elle a écrit un texte quasiment une minute, même pas. Puis c'était un texte qui ne adressait pas la situation, qui ne s'excusait pas et qui, vraiment, c'était juste pour dire qu'elle avait fait ce qu'on lui avait demandé, mais en tant que telle, tu sais, il n'y avait rien là, dans le contenu qu'elle disait. Elle s'est jamais excusée à nous en tant que telle. Puis, tu sais, c'était un peu choquant, là, tu sais, de voir que tout ce qu'on te demandait, c'était vraiment juste de t'excuser puis de prendre responsabilité de ce que vous avez fait. Puis même d'un autre côté, les personnes racisées, les personnes noires, en fait, qui étaient dans leur caucus, ils n'ont jamais eu d'excuses non plus. On leur a dit de, comme, on va pas laisser ça affecter notre paix, qu'on fait comme si rien n'était. Tu sais, sans avoir pris un moment pour faire genre, OK, ce qu'on a fait, on n'était peut-être pas conscient de ce qu'on a fait, mais faut qu'on y repense, puis faut qu'on soit un peu plus, genre, sensible à comment ça peut affecter les autres, tu sais.
Encore là, je pense que c'est rendu là, c'est encore un manque de sensibilisation qui manque, là, encore. Ça serait quoi, mettons, genre, peut-être toi, après avoir vécu ça, mettons, c'est quoi que t'aurais aimé que soit fait précisément, puis mettons, c'est quoi les idées de sensibilisation qui te viennent en tête pour justement empêcher qu'un événement comme ça réarrive?
Mais on dirait que c'est pas tant de la sensibilisation dans ma tête, c'est plus avoir de l'humilité, tu sais.
Ouais.
Prendre deux secondes, puis réaliser que même si t'es une personne qui est très éduquée, même si t'es une personne très politisée ou peu importe, ça se peut aussi que tu sois dans une situation où que tu dois faire face à tes actions, tu sais. Puis on pense souvent au racisme comme étant genre que c'est les personnes genre they're evil, je sais pas dans le sens que c'est très gros genre te faire dire que t'as dit de quoi de raciste, peu importe. Mais à un certain point, il faut voir qu'il y a du racisme dans les petites choses aussi, puis tu peux être une personne qui va avoir des comportements racistes sans nécessairement être une mauvaise personne, tu sais, dans le sens que tout ce qu'on te demande...
Sans nécessairement le savoir
Exactement. Mm-hmm. Puis juste pour rebondir justement sur le point de Nema que je trouve très important, tu sais, même moi, genre, j'ai eu des... J'ai pas des pensées racistes, mais j'ai cru à des choses qui, au final, j'ai réalisé que c'était raciste, notamment, je peux parler du Firewater Myth. En fait, là, c'est dans le fond... peut-être que vous connaissez déjà, mais c'était une espèce de une croyance là qui disait que notamment les personnes autochtones avaient une moins bonne tolérance à l'alcool que les personnes blanches et genre juste les gens en général. Puis j'ai eu un cours à l'université là justice et minorité autochtone qui m'ont littéralement appris que c'était pas vrai, tu sais. Puis moi je croyais ça, genre j'avais 19 ans quand j'ai fait le cours, tu sais, j'ai cru ça pendant 19 longues années là. Puis tu sais, il y a notamment aussi le fait que on dit tu sais, les autochtones en général, tu sais, ils payent pas de taxes, puis genre tu sais, ils ont tout est payé pour eux, puis tu sais, j'ai fait un voyage à Wendake. Ben voyage Wendake, c'est vraiment à côté là, mais je parlais à Wendake cet été, puis on a eu une visite un peu évidemment de la réserve indienne, puis dans le fond notre guide c'était un métis là. Puis en plus, littéralement, la journée d'avant, je m'embrouillais avec ma mère. Puis bon, Nema, je pense qu'elle connaît à quel point les mères africaines peuvent être têtues, là. Mais notamment, elle me disait que... Parce qu'elle avait déjà fait la visite, puis elle me disait que... Ah, tu sais, toutes les maisons ont Wendake, les autochtones sont propriétaires, puis tu sais, c'est eux qui les ont construits, puis tout. Puis je disais à ma mère, ben non, tu sais, je veux dire... Normalement, tu sais, ça devrait être le cas, mais... tu sais, c'est des locataires, justement, parce que la réserve indienne, c'est un territoire fédéral. Puis elle, ma mère, me disait, non, moi, j'ai vu les gens qui habitent là-bas, c'est leur maison. Mais tu sais, je veux dire... Normalement, en général, ce serait logique de se dire ça, tu sais, parce que pourquoi t'habiterais dans un truc que tu pourrais jamais avoir, tu sais. Mais littéralement, le guide nous a dit que non, justement, la réserve est un territoire fédéral et que les autochtones enregistrés, là, c'est bizarre à dire comme terme, mais c'est ça le terme. Les autochtones sont enregistrés, ce sont des, au sens de la loi, c'est des adolescents émancipés, qui sont même pas adultes. Puis, tu sais, là, je voyais ma mère qui écoutait la guide. Puis là, j'ai vu, pour une fois, au moins, elle a vu que j'ai raison. Bref. Mais, tu sais, c'est juste pour dire que, justement, tu sais, moi, je pensais tout ça, là. Puis, tu sais, je pensais tout à ça parce que, tu sais, dans la société, c'est ça qu'on dit d'habitude, tu sais. Puis, ça fait pas de moi de mauvaise personne, là. Je veux dire, tu sais, ça fait juste de moi quelqu'un d'ignorant. Mais maintenant, je sais. Tu sais, maintenant, je sais. Donc, je pense, justement, c'est juste, tu sais, quand t'es mis devant le fait accompli de soit un acte raciste ou quelque chose que tu pensais qui n'est pas vrai. Mettons que, tu sais, moi, mettons, je peux dire, étant une blague qui soit un peu déplacée envers quelqu'un. Il y en a qui peuvent prendre ça bien, tu sais. Il y en a qui, pour qui l'humour noir, genre, tu sais, ça reste. Ils s'en foutent. Mais il y en a pour qui ils prennent pas ça bien. Puis si la personne te dit de t'excuser, ben, t'as juste à le faire. Puis je pense que c'est justement comme ce que Nema disait. Tu sais, nous, on a nos opinions sur le racisme systémique. Il y a d'autres noirs, tu aurais pu leur poser la question, ils auraient pu dire, il n'y a pas de racisme systémique au Canada. Donc, ou au Québec, whatever. Mais je pense que justement, c'est important de prendre la réalité de chacun, puis pas juste assumer un avis ou un point de vue pour toute une communauté, parce que c'est justement ça qui est important pour justement faire changer les mentalités, puis vivre cohésion, exactement. Voilà.
Tu voulais-tu ajouter, parce que je pense que tu n'avais pas fini d'expliquer ton point sur justement comme les gens qui font faire peut-être des actes raciste sans nécessairement le savoir?
Oui, ben en fait, je pense que dans des situations comme ça, je voulais juste surtout mettre de l'avant le fait que, tu sais, on était dans une place où il y avait beaucoup de personnes qui allaient être, mettons, genre des minorités sexuelles ou qu'il y allait, tu sais, la PM, c'était une femme trans aussi, puis il y en avait. Puis en tant que telle, ce que, genre, je veux le mentionner juste parce que je trouve que c'est important de savoir que même si tu vis une certaine oppression, ça ne fait pas en sorte que tu ne peux pas aussi en faire aussi, que tu deviens un peu à l'abri de tout ça. Puis je pense que dans les circonstances, oui, il y avait des personnes qui étaient dans plusieurs minorités, on va dire, mais il y avait aussi le fait que on était très politisés, donc les gens, il y avait de la difficulté à s'imaginer être une personne ayant commis des actes racistes.
Sur ce, merci beaucoup à vous deux. J'en ai vraiment beaucoup appris aujourd'hui. Puis pour ceux qui nous écoutent, on se dit à bientôt à A Priori sur les ondes de Schiste 94.3.